Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous cordialement dans le précieux et saint nom de notre bien-aimé Seigneur. Et nous vous souhaitons aussi à tous ceux qui écoutent et qui sont en ligne et qui voient et qui écoutent, que eux aussi soient bénis dans le monde entier, sur toute la terre, d'une extrémité à l'autre, que tous soient bénis par la grâce de Dieu. Et tous ceux qui sont ici pour la première fois, nous voulons bien sûr encore d'une manière très particulière leur souhaiter les bienvenus. Que Dieu le Seigneur nous bénisse ensemble. Je sais qu'ils viennent de la Pologne, il y a plusieurs ici qui sont là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse et aussi tous les autres qui sont là pour la première fois. Pour le faire rapidement, nous avons des salutations du frère Wallström, du frère Dr Billet, du frère Étienne Genton, du frère Ostgraf, des salutations du frère Gilson, des salutations d'Atlanta, du frère Joseph, des salutations du Burundi, de la Nouvelle-Zélande, des salutations du frère Ati, des salutations du Congo, des salutations du frère John, de Bucarest, des salutations du frère Paul, de Nairobi, des salutations de la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est un nom difficile à prononcer. Des salutations des frères et sœurs Olviti et de tous les frères et sœurs de la Finlande, frères et sœurs du frère Deo de Kigali, des salutations du frère Janusz de la Pologne, des salutations du frère Jacques d'Abidjan, des salutations du frère Gratian de Ashtot, des salutations du frère Pino Davi, des salutations encore de l'Est du Congo, et ensuite des salutations de la Bolivie, de Yapas, tous remettre leurs salutations, et encore des salutations de la Côte d'Ivoire, des salutations de notre frère Bruce Kloot de Kapstadt, un homme qui enseigne à l'université. Ensuite, des salutations de Ottawa du Canada, des salutations du Tchad, de Djamena, des salutations de Johannesburg, du Tabernacle, des salutations encore une fois du frère Joseph d'Atlanta, et ensuite des salutations ou bien alors de la Croatie. Il y a un frère qui écrit de la première fois, qui a entendu parler de nous dans l'Internet, qui était en ligne et qui a donc pris contact avec nos frères, avec le frère Manchelo Petrovic et le frère Monchelo et le frère Müller. La semaine qui arrive, entreprendront un voyage en Croatie. Que Dieu le Seigneur les bénisse. Encore des salutations du Burundi. Entreprendront un voyage en Croatie. Encore des salutations du Burundi. Salutations de Oslo. Après, et vous pouvez aussi entre-temps le faire, que nous puissions prier pour la Nouvelle-Zélande et les pays de cette région, que Dieu aussi accorde un réveil et que la vraie parole, le vrai message aussi là-bas puisse prendre son cours et atteindre les élus. Vous savez, la Nouvelle-Zélande est l'un des premiers pays que j'ai foulé, Et bien sûr, les différentes directions et interprétations, particulièrement les directions des tonnerres, eux, sont venues dans le pays. Mais pour Dieu, ce n'est jamais trop tard. Jamais trop tard, tant que c'est encore le temps de la grâce. Et que il y a des hommes qui se laissent toucher par la parole véritable de Dieu, le Seigneur peut les aider. Celui qui perd le respect devant la parole de Dieu, Dieu ne peut plus non plus l'aider. Dieu peut seulement aider ceux à qui il peut parler et à qui sa parole et qui accepte donc sa parole. Accepte sa parole. Ceux qui permettent à Dieu de leur parler. En quoi de salutation, je veux aller l'une après l'autre. Nous avons eu le premier week-end en juin, ici, des réunions merveilleuses, et la bénédiction de Dieu est venue sur nous tous. Ensuite, nous avons eu la réunion puissante à Paris, où sont nos frères? Le frère Didier, le frère Gilbert, et tous les frères qui étaient là-bas, le frère Kupfer était avec nous, et notre bien-aimé frère Tati a traduit, et les frères disaient à peu près, il y avait 1500 personnes qui étaient présentes, je ne les ai pas comptées, mais Dieu a vraiment, au-dessus de toute mesure, accordé la grâce, et cette fois-ci, après plusieurs années, je l'ai fait comme autrefois en Inde et dans plusieurs pays, je le faisais, que simplement, je suis allé à la sortie après la réunion pour serrer la main à tous ceux qui sortaient et je leur ai souhaité à tous les bénédictions de Dieu. Et ensuite, le voyage puissant a commencé, particulièrement à Cuba, et ensuite à Lima, au Pérou, et ensuite à Sao Paulo. Et je dois simplement dire que les réunions à Cuba étaient très, très particulières, d'un caractère très particulier. Nous avons notre frère Inodi ici, qu'il puisse se lever, lève-toi s'il te plaît. Dieu a, d'une manière particulière, a pu utiliser cet homme pour, là-bas, préparer les réunions. Et il a été dit que 22 différentes dénominations et prédicateurs des églises évangéliques, des églises méthodistes, baptistes, pentecôtistes, des églises charismatiques. Tous se sont rassemblés pour écouter la parole du Seigneur. Et je dois simplement dire que Dieu, depuis le commencement, m'a accordé la grâce de rester sage, d'avoir de la sagesse, mais de ne jamais faire de compromis. De ne jamais faire de compromis tout en restant sobre et en faisant attention, mais de ne jamais faire de compromis malgré tout, rester faisant attention, permettant au Seigneur de parler au cœur. Ensuite, nous avons, c'était le président des églises baptistes, duquel la femme m'a dédié ce tableau dans la dernière réunion. Et ici, il est écrit pour le dire rapidement en allemand. Il est écrit par le frère Frank, Dieu a lui-même rendu témoignage. Comment est-ce que dans Apocalypse chapitre 22, au verset 20, il a dit dans sa parole, et nous disons, viens Seigneur Jésus, Amen. C'était vraiment dans l'Apocalypse où il est écrit, je reviens bientôt. C'était vraiment une bénédiction pour tout le pays, et particulièrement à Havana, et aussi dans la région. On doit simplement dire dans les environs d'Havana. On pouvait dire que l'heure de Dieu a frappé là-bas. Et vous savez que c'était ainsi que le pape, il n'y a pas longtemps, était là-bas à Cuba, dans la région. Et Cuba était le seul pays dans toute la région qui s'était mis du côté de l'Union soviétique. Et nous nous rappelons comment est-ce que Khrushchev avait enlevé ses souliers et à l'ONU à New York avait tapé sur la table et avait dit « Je vais vous montrer un exemplaire ». Et Cuba a été choisi donc par la Havane et la région d'Havane. Et Cuba donc a été utilisé pour qu'ils puissent atteindre ses objectifs. Mais c'était un temps sérieux, particulièrement pour nous aussi, à l'époque, dans notre pays, ici en Allemagne. Très peu de nous l'ont vu, mais ceux qui sont plus âgés ont vécu dans cette époque et ont su. En août 61, des chars russes s'étaient tenu ici à Berlin et américains l'un contre l'autre et John Kennedy disait je vais faire un exemplaire de Berlin et que Dieu soit remercié de ce que cela n'a pas eu lieu. Mais le mur depuis août 61 a été érigé et c'était vraiment le point culminant de la guerre froide. Et Cuba de tous les pays a été exclu. Il n'y a pas eu d'évangélisation depuis lors. Il n'y a pas eu de prédicateurs qui ont pu là-bas faire des campagnes d'évangélisation. Mais maintenant, le pays est ouvert et les frères déjà ont dit que, en tout cas, dans le mois de mars, l'année prochaine, je dois de nouveau aller là-bas. Ils veulent louer un stade et inviter toute la région pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes les portes qui s'ouvrent. Il appelle de tous les peuples, les langues et les nations à sortir et que Dieu puisse aussi soutenir nos traducteurs d'une manière particulière et les bénir, leur accorder l'inspiration et les mots. Juste, ce n'est pas facile de traduire simultanément. Mais que le Seigneur, notre Dieu, soit avec chacun qui traduit et avec tous ceux qui écoutent. Je voudrais encore rapidement exprimer cela, que de tout notre cœur, nous sommes liés avec tous ceux qui sont liés avec le Seigneur. Et celui qui est lié avec Dieu le Seigneur, qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui maintenant écoutent sa voix, croient les promesses de l'heure et ont part à ce que Dieu fait dans le présent. Ce sont ceux-là qui sont liés avec le Seigneur. Donc rapidement encore, pour parler de Lima, Pérou, à peu près une heure passée à la télévision, j'ai eu la possibilité de parler pendant une heure à la télévision et Dieu m'a accordé la grâce. Et encore, il y a eu une réunion avec ceux qui travaillent dans cette télévision et j'ai pu aussi là-bas, parmi eux, parler de ce que la parole de Dieu a à nous dire dans cette époque. Le fruit, c'est le Seigneur qui doit le manifester. Nous ne faisons que prêcher la parole. Mais la parole elle-même doit produire l'effet pour lequel elle est envoyée. Ensuite, à Sao Paulo, oui, seulement, ça a été une visite, bref, particulièrement dans la maison de la famille Mesquis, et nous nous sommes réjouis, et tous ceux qui sont là-bas sont aussi liés avec nous et avec le Seigneur, et nous sommes simplement reconnaissants pour tout ce que le Seigneur appelle à sortir. Et nous sommes aujourd'hui rassemblés de toute l'Europe ici. Et alors que je voyais les frères et sœurs de l'Angleterre qui aussi sont venus en voiture. Bien-aimés frères et sœurs, cela nous touche le cœur à tous. Des hommes viennent de loin et de près. Et pourquoi est-ce qu'ils entreprennent de longs trajets pour écouter la parole de Dieu? Car le Seigneur a dit qu'il enverra une faim dans le pays et une soif, pas d'après le pain naturel et l'eau naturelle, mais d'écouter les paroles de l'Éternel. Et c'est peut-être raison que nous avons la sainte obligation de prêcher la parole de Dieu. Ce qui se passe encore dans le monde, vous ne pouvons pas ici entrer dans les détails de ces choses. Le temps est aussi trop précieux pour cela. Mais nous voyons ce qui se passe autour d'Israël. Dieu nous a aussi ouvert les yeux sur cela. Nous voyons comment est-ce que les négociations avec entre le Vatican et Israël avancent. Et la déclaration du Vatican disant que nous ne nous laissons pas satisfaire avec des solutions à moitié. Nous voulons une solution totale, entière, dit le Vatican. Et nous voyons qu'en cela, c'est les Écritures qui vont devoir s'accomplir et aussi les autres côtés, toutes les puissances qui sont contre Israël, qui sont en train de se rassembler, de s'unir. Nous avons tous appris aussi le chef de Moscou a fait sa déclaration et il s'est mis de l'autre côté et il soutient justement ceux qui sont contre Israël, le chef de la Russie. Mais ici, nous voyons l'Écriture s'accomplir. Ézéchiel 38, le roi du Nord viendra. Et là, ici, tous les peuples, on peut même les lire dans Ézéchiel chapitre 38, je ne vais pas ici utiliser le temps pour cela, mais ici, dans Ézéchiel 38, même les peuples qui seront avec le roi du Nord sont décrits quand ils s'élèveront pour aller contre Israël. Ézéchiel chapitre 38, seulement ce verset ici, les autres, vous pouvez les lire après. Ézéchiel 38, à partir du verset 5. Et avec eux, donc, Perse, l'Éthiopie, Put, donc la Libye, tout portant le bouclier et le casque. Ensuite, il est encore décrit jusqu'au roi du Nord lui-même. Ézéchiel 38, verset 5. Ce qui était depuis 79, la Perse et donc le char de la Perse et d'Éthiopie, il avait donné déjà des milliers d'arbres à Israël pour montrer son penchant pour Israël. Et ensuite, vint Khomeini et ensuite suivi l'un après l'autre. Et nous voyons maintenant comment est-ce que tous sont en train de se tourner contre Israël. Aussi vu terrestrement, bien aimés frères et sœurs, nous devons constater que nous ne vivons pas seulement et que nous ne sommes pas seulement arrivés à la fin des temps, mais que toutes choses sont en train maintenant vraiment d'aller dans leur fin directe. À leur fin directe. Encore une information du monde évangélique, de ce journal religieux Spectrum allemand. Ici, il est décrit à la page 9. Les baptistes quittent l'ordre missionnaire dans une petite ville, Kempfenthal, peut-être à 20 km d'ici, dans une église baptiste, des musulmans et des baptistes se rassemblent. Les uns lisent dans la Bible, les autres lisent dans le Coran, et ensuite ils disent, celui qui exerce la miséricorde envers son prochain est sur le bon chemin qui mène à Dieu. Alors même le pasteur évangélique, l'église évangéliste a posé la question, est-ce que cela serait correct? Même l'église évangélique n'est pas d'accord avec cette église évangélique qui prétend de telles choses. Nous nous rappelons des années 40, comment est-ce que aussi même les baptistes, les évangélistes, et tout ça a été plein de feu et rempli de Saint-Esprit des années 40. Et même Otmar, qui avait fait une grande tente d'évangélisation et qui avait prêché avec plein de feu l'évangile, même encore après la guerre, tout était différent. Même les dénominations étaient pleines de feu. Mais depuis lors, on doit dire que l'apostasie s'est infiltrée et la chute a eu lieu. Et tous regardent à Rome et veulent s'unir. Et nous avons, lors de la dernière fois, eu à dire, maintenant, il y a vraiment 349 communautés évangéliques protestantes dans le Conseil mondial des églises. 349. Mais auprès du Seigneur, il n'y a qu'une seule église qui est valable. Elle est rachetée par le sang de l'agneau. Il n'y a pas autre chose. Pas toutes ces soi-disant églises, mais cette église unique dont le Seigneur bâtit lui-même. Mais c'est très triste. On se réfère à Jean 17 pour que tous soient un. Il se réfère à Jean 17. Mais qu'est-ce qui est écrit dans Jean 17? À qui est-ce que le Seigneur parle dans Jean 17? S'il vous plaît, lisons ces 3 ou bien ces 4 versets de Jean, chapitre 17, pour voir le contexte dans lequel ce verset est écrit, pour savoir à qui est-ce que le Seigneur autrefois et encore aujourd'hui a adressé et adresse cette parole. Dans Jean 17, ici, tout de suite, au verset 3, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi. Et le chemin qui mène à Dieu est aussi le chemin de Dieu qui mène à nous. Et notre chemin qui mène à Dieu est seulement en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensuite, le Seigneur dit au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Et ils ont gardé ta parole. Nous remarquons ici à qui est-ce que le Seigneur a adressé cette parole et à qui est-ce qu'il parle aujourd'hui encore. Encore le verset 11, la deuxième partie du verset 11. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Ensuite, le verset 14. Je leur ai donné ta parole, pas seulement révélé ton nom, mais je leur ai donné ta parole. À qui est-ce que le Seigneur, dans ce temps, a donné sa parole par sa grâce? Et ensuite, il continue. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ensuite, verset 17 et 18. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Qui aujourd'hui s'occupe de la parole de Dieu, se soucie de la vérité de la parole de Dieu? Tous ces gens-là, ce décor de versets bibliques, après les avoir interprétés, et ils ont leur propre programme. Ensuite, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Nous avons un envoi divin, un mandat divin que nous devons exécuter par la prédication de la parole de Dieu. Ensuite, verset 23, comme couronnement, verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Toi en moi et moi en eux, afin qu'ils soient parfaitement un. Ça, c'est merveilleux. Simplement merveilleux. Encore le dernier verset. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Je leur ai fait connaître ton nom au passé et au futur, et je leur ferai connaître. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants, de tout notre cœur reconnaissants, de ce que Dieu nous a accordé la grâce, vraiment accordé la grâce de reconnaître de quoi il s'agit dans ce temps dans lequel nous sommes. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de l'appel à sortir et de la préparation de ceux qui prendront part au festin des noces de l'agneau. Et peut-être encore cette pensée. Notre Seigneur, peut-être que je devrais le lire pour que vous puissiez tous exactement savoir. Notre Seigneur a exactement, comme Jean-Baptiste, annoncé le royaume de Dieu. Et ensuite, avec puissance, ce royaume de Dieu a apparu. Ici dans Matthieu, le chapitre 3, Matthieu chapitre 3, je lis pour une raison bien précise. Dans Matthieu chapitre 3, ici il est écrit, à partir, oui nous devons lire d'abord le premier verset, Matthieu chapitre 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Proche, proche. La même chose a été fait, a été dit par notre Seigneur dans Matthieu 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, en allemand, à prêcher l'évangile, le message du salut, et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Proche. Proche est proche. Ensuite, la parole connue de Luc, chapitre 16, verset 16, que la loi et les prophètes la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Mais le jour de la Pentecôte, le royaume de Dieu n'était pas seulement proche. Là, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit s'est déversé. L'Église du Nouveau Testament a été fondée de cette manière. Et c'est ainsi que la parole a pris son commencement, a pris son cours, et nous avons la grâce maintenant d'être dans le royaume de Dieu et d'expérimenter ce que Dieu le Seigneur fait dans le présent. Et aussi la parole de Matthieu 16 est mal utilisée et interprétée, là où le Seigneur a dit à Pierre, je te donne les clés du séjour des morts, et pardon, du royaume de Dieu. Il ne l'a pas dit à quelqu'un d'autre, il a dit à Pierre. Et le jour de la Pentecôte, dans Matthieu 16, je te donne les clés du royaume de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, le jour d'Actes apôtres, cet homme de Dieu, car déjà par Jean-Baptiste, le royaume de Dieu avait été annoncé par notre Seigneur lui-même. Et ensuite, ils sont entrés dans le royaume. ils ont usé de violence et ils sont entrés dans le royaume. Et ensuite, l'homme qui avait reçu les clés du royaume des cieux a ouvert la porte, a tenu la première prédication et a dit simplement, et disons-le dans le monde entier, et ça je l'ai dit aussi à Cuba plusieurs fois dans les réunions, la dernière prédication doit être telle qu'était la première. Et le dernier baptême doit être comme et a été le premier. Car avec Dieu, tout reste tel que ça a été depuis, ça a été décidé et pratiqué depuis le commencement, sans considérer ce que les hommes, eux, en font et font avec cela. Particulièrement aussi tel que lors de la dernière fois ici, nous l'avons dit en insistant, notre Seigneur
a
placé sa main droite sur Jean alors qu'il était sur l'île de Patmos et il lui a dit les choses suivantes. Lisons dans Apocalypse, le chapitre. Le premier chapitre, à partir du verset 16, Apocalypse chapitre 1, verset 16. Il avait dans sa main droite sept étoiles, dans sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ensuite, Jean rend témoignage ici et dit, Jean, en tant qu'apôtre, rend ici témoignage et dit, au verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant,
«
Ne crains point. » Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais les clés pour le royaume de Dieu, ça c'est Pierre qui les avait reçues. Pierre et cette clé du royaume de Dieu, chaque serviteur de Dieu là pour prêcher la parole, c'est ainsi que la même révélation telle que Pierre l'avait reçue au commencement, le jour du fondement de l'Église du Nouveau Testament. Parce que ici, je viens de lire dans sa main droite, notre Seigneur avait sept étoiles et sa main droite, il a placé sur moi et il disait, il a posé sur moi et disait, s'il vous plaît, excusez-moi si je le dis et je le rends ici comme témoignage encore une fois. À chaque fois, sans exception, la voix du Seigneur est venue audible, est venue de la droite en haut à droite. Jamais de devant ou bien de derrière, toujours en haut à droite. Il y a quelqu'un dans son livre qui s'est moqué de ça, de ce témoignage et qui a dit, oui, frère Franck a dit que la voix du Seigneur vient à lui de la droite. Et ensuite, ce moqueur-là a écrit toutes sortes de choses là-dessus. On ne devrait jamais le faire. Jamais le faire. Même si on ne peut pas le comprendre, on doit le laisser comme ça, sans tel que Dieu a déterminé les choses et tel que le Seigneur toujours l'a fait. Bien-aimés frères, nous sommes ici rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Et alors que la parole d'introduction de Colossiens a été lue, mes yeux sont tombés dans le chapitre 2, Colossiens, chapitre 2, ici au verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Et cela me rappelle le dernier cantique que la chorale a chanté ce soir. La foi est la victoire. La foi est la victoire. C'est ainsi que c'est écrit dans Jean, dans 1 Jean chapitre 5. Et ici, nous avons la description de ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Alors que, tel qu'il est écrit ici, toutes les dominations et les autorités ont été dépouillées et que la lettre de condamnation a été anéantie. Ensuite, au verset 13, au verset 14, comme les choses sont décrites, et au verset 15, il est dit, Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est le verset 14. Ensuite, le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé entièrement les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Notre Seigneur est le victorieux de Golgotha. Et il attend jusqu'à que tous les adversaires qui sont déjà vaincus soient placés sous son marchepied. Car c'est ainsi que c'est écrit dans le psaume 110 et aussi toujours de nouveau dans le Nouveau Testament. Nous voulons dans la foi, dans la certitude en notre Seigneur, dans notre Seigneur et aussi dans la certitude de ce qui c'est accompli pour nous. Nous voulons confesser ces choses de notre propre bouche, les croire de notre cœur et ne pas s'occuper de l'adversaire, mais lui dire simplement, tu es vaincu. Tu es vaincu. C'est écrit ici dans la Bible, dans la parole de Dieu. Lisons cela encore. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et les a détruits en le clouant à la croix. Ensuite, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Quand après avoir effacé les ordonnances qui nous condamnaient et les avoir cloués sous la croix et versé son sang. Et la résurrection a été la victoire sur la mort, sur l'enfer, sur le diable, sur tout. Et c'est ainsi que notre Seigneur a dépouillé toutes ces dominations des autorités, les a vaincus et nous a ressortis de la chute. Nous avons été rachetés et nous n'avons plus besoin d'être sous cette influence des ténèbres et des dominations des autorités. Mais celui que le Fils libère, il est réellement libre. Et bien aimés frères et sœurs, il y a ces versets puissants qui rendent témoignage de ces choses que nous devons recevoir dans tout notre cœur. Et j'ai encore cette demande, que nous puissions réellement croire chaque parole de Dieu et permettre au Seigneur de nous parler par chaque parole et que nous ouvrons nos cœurs et recevons chaque parole. Ça n'a pas d'importance où est-ce qu'elles sont écrites dans la Bible. Et que nous puissions savoir que ces paroles-là ne concernent pas une autre personne. Nous sommes toujours concernés, nous qui écoutons la parole. Et s'il y a peut-être quelqu'un dans l'assemblée, qui est dans la réunion, dans la salle, qui est assis, qui se demande, oui, maintenant il veut parler de moi. Alors, s'il te plaît, ce n'est pas frère Franck qui veut parler de toi, mais c'est Dieu qui te parle. Il ne faut pas penser, maintenant ce verset-là, il le lit à cause de moi. Non. De cette façon, Dieu te parle. C'est Dieu qui nous parle. J'ai lu il n'y a pas longtemps dans Jacques. Par exemple, si nous faisions que nous regarder dans le miroir de la parole et après cette partie, nous oublions dans quel état nous étions. Alors, ça ne sert à rien d'avoir regardé dans le miroir. Regardons dans Jacques, le premier chapitre, à partir du verset 21. Nous sommes toujours concernés. Et sous le coup de la parole, nous devons nous regarder dans le miroir de la parole. Ici, c'est pourquoi, dans Jacques chapitre 1, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout accès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas seulement planté la parole, mais nous, dans chaque cœur, le Seigneur plante sa parole. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça, seulement en général, que nous soyons assis sous le coup de la parole en pensant maintenant que le Seigneur est en train de semer. Non, non, nous avons ressenti que cela se passe en nous, pas seulement que le Seigneur est en train de planter, mais il plante sa parole en nous. Tel que c'est écrit, c'est une expérience que nous devons faire avec le Seigneur. C'est ainsi que la parole peut sauver nos âmes. Ensuite, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole, mais si quelqu'un fait que écouter la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Regarde dans un miroir son visage naturel, c'est bien, n'est-ce pas? Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ici, nous avons cette demande que nous puissions tous ensemble, sous l'écoute de la parole de Dieu, nous-mêmes, nous regarder dans le miroir et ne pas partir. Ne pas comme ça s'en aller, comme ça simplement, mais nous reconnaître dans la présence de Dieu dans quel état réel nous sommes. Et nous que nous puissions dire, Seigneur, fais-moi grâce, car j'ai encore ceci et cela que j'ai vu en moi. Je me suis moi-même regardé dans le miroir. On doit, à l'endroit, au moment où la parole de Dieu est prêchée, au moment où nous écoutons la parole, où elle nous touche, c'est là, à ce moment-là, que nous devons dire, Seigneur, maintenant, je te demande que tu puisses en moi ôter cela, faire cela. J'ai besoin de ton secours. Je ne veux pas partir d'ici si ce n'est que j'expérimente que tu me secours et que tu me purifies dans les choses que tu me donnes de voir. Sous le coup de la parole. Ensuite, ici, nous avons des corrections et des exhortations l'une après l'autre. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous ne faisons pas seulement écouter la parole et nous ne sommes pas en train de prendre des jumelles ou bien des loupes pour toujours en train d'être de regarder les autres, peut-être même de bien avec des loupes, des jumelles et bien les agrandir. Non, ce qui concerne la prédication de la parole de Dieu, nous sommes toujours concernés. Et dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 3 et 4, nous avons les choses suivantes. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Non, non. En allemand, ni avec des arrière-pensées, Non. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous n'avons pas Nous avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Mais selon que Dieu nous a jugé, Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. Alors, ainsi, nous devons nous examiner au miroir de la parole de Dieu. Et nous devons parler pour plaire à Dieu. Ici, Dieu, lui, il nous dit les choses ouvertement, par amour. Et nous savons que Enoch, lui, il avait, avant son enlèvement, reçu le bon plaisir, le témoignage qui plaît à Dieu. Et nous aussi, avant l'enlèvement, nous avons besoin que Dieu rende témoignage que nous lui sommes agréables. Et tel que c'était avec le Rédempteur, il lui a été dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu doit nous remplir de sa puissance et que le témoignage nous soit rendu que nous sommes agréables à Dieu. C'est ainsi que dans le même chapitre ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, ici à partir du verset 13, c'est verset merveilleux où il est dit ici, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Ce ne sont pas des hommes, des opinions d'hommes, des interprétations ou bien des choses qui sont prêchées. Ici, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. L'évangile de Jésus-Christ, le message du salut de notre Seigneur. Avons-nous compris cela? Avons-nous reçu cela de tout notre cœur, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que nous voyons ici la différence entre toutes les communautés, dans tout le christianisme et entre l'Église du Dieu vivant? L'Église du Dieu vivant croit pas des interprétations, des opinions humaines, des façons de voir, et aussi à l'intérieur du message. Non plus, elle n'accepte pas de telles choses. Et disons-le ouvertement, combien de directions différentes, d'opinions humaines ont apparu à l'intérieur du message. On dit il y a 9 directions. Je ne les ai pas comptées. Mais laissez-moi vous dire cela dans l'amour. Il n'y a qu'une seule foi correcte et véritable, et elle est seulement dans la foi, dans la parole de Dieu, fondée dans la parole de Dieu. Tout le reste, ce sont des interprétations. Qu'est-ce que moi je veux avoir à faire avec des interprétations, avec des choses qui n'ont pas leur origine dans la Bible? Si par exemple le Seigneur m'a dit, je t'envoierai de ville en ville pour prêcher ma parole. La parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole de Dieu qui demeure éternellement, nous l'avons prêchée. Lisons cela encore ici et acceptons cela de tout notre cœur. J'espère que dans toutes les traductions, c'est exactement comme ça, comme c'est en allemand. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Qui de vous a déjà remercié Dieu de ce que la parole qu'il écoute là ne vient pas d'un homme? Qui a déjà rendu grâce à Dieu pour cela? Que la parole que tu écoutes là, est-ce que tu es conscient que ça vient de Dieu et est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour cela? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Car la parole nous a été révélée, la parole que nous entendons, qui nous est prêchée, nous a été révélée. De ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Comme elle est véritablement, comme la parole de Dieu. Qui agit en vous qui croyez, donc la parole de Dieu produit l'effet pour lequel elle l'est envoyée. Parfois, c'est comme un marteau qui brise des rochers. Parfois, c'est comme une épée qui pénètre pour séparer l'âme et la moelle et la chair et tout ça, et l'esprit. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de chaque parole de Dieu, que ce soit l'enseignement, que ce soit la prophétie biblique. Mais s'il vous plaît, recevez aussi de tout votre cœur ce qui est écrit à la fin. Qui agit en vous qui croyez? Qui agit en vous qui croyez? Qui agit en vous qui croyez? Qui connaissait cette parole d'Hébreux chapitre 4, verset 12? La parole de Dieu est agissante, efficace, vivante. Est-ce qu'elle t'a pénétré? Est-ce qu'elle m'a pénétré? Est-ce qu'elle nous a pénétré? Est-ce que la véracité de la parole de Dieu a été manifestée en nous? Que réellement, ce ne soit pas seulement que avec la bouche nous confessons écouter la parole de Dieu, mais de tout notre cœur que nous puissions la croire. De tout notre cœur que nous puissions la croire. Croire que la parole de Dieu est un absolu. Elle est l'absolu. Et ici, d'abord dans Hébreux chapitre 4, le verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Car ce message du salut nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ça, c'est une parole. Elle leur a servi de rien, quoi qu'ils aient entendu la vraie parole. Mais elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils ont endurci leur cœur. C'est pour cette raison, bien aimés frères et sœurs, il faut que nous puissions le dire en insistant, tel que notre Seigneur lui-même dans Matthieu, réellement, plusieurs fois l'a fait. Heureux, donc bénis sont vos oreilles parce qu'elles entendent et vos yeux parce qu'ils voient. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir et entendre et voir ce que vous entendez et ce que vous voyez et ne l'ont pas entendu et vu. Qu'est-ce que Paul dirait aujourd'hui? Qui autrefois s'attendait déjà au retour du Seigneur et a écrit que nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons en un clin d'œil transformés. Déjà Paul l'écrit autrefois, j'ai dû le lire, que ce soit Paul, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, tous, leur sujet principal était le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et presque 2000 années sont passées, et 2000 années sont passées, et depuis 1933, alors que le Seigneur de la nuée surnaturelle parla et a dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur du retour du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. Et combien d'années sont passées? Et malgré nous, cette parole reste valable pour nous. De Pierre, chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de la promesse. Il attend, de Pierre, chapitre 3, verset 10, jusqu'à ce que les derniers soient appelés à sortir, deviennent croyants et soient sauvés. Et c'est seulement après que le Seigneur pourra revenir. Même si les moqueurs apparaissent, comme ça a été prédit, et disent où est l'accomplissement de la promesse de son retour. Il ne tardera pas. Non, il viendra au temps, au moment voulu, au moment convenu. Mais comme souvent nous avons eu à le dire, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin, nous sommes arrivés très très proches de ce jour. Et nous devons veiller à ce que aussi l'amour parfait de Dieu remplit notre cœur, soit déversé dans notre cœur. Pensez à cette parole de notre frère Branham alors qu'il était ravi dans la gloire et qu'il a vu ce grand troupeau habillé en blanc venir vers lui. Et il a entendu la voix lui dire, « Seulement l'amour parfait entrera ici. » L'amour parfait de Dieu a été manifesté sur la croix à Golgotha. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils seul engendré de lui, par lui, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Et ensuite, la traduction Menge en allemand. Je crois que c'est l'unique, c'est la seule de toutes les traductions qui dit, que j'ai lues jusqu'à maintenant, qui disent Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie éternelle pour que tous ceux qui croient en lui aient en lui la vie, en lui. Toutes les traducteurs disent et aient la vie éternelle. Menge dit en allemand en lui, car c'est seulement en lui que nous avons la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ait en lui la vie éternelle. Car celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie a été manifestée dans le Fils. Et l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, a été manifesté en ce qu'il a donné son Fils. Et dites-moi sincèrement, le même amour doit, selon Romains 5, verset 5, être déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors aura lieu sans effort que nous pouvons même donner notre vie pour un frère. Sans effort, l'amour de Dieu sera vécu par nous, sera manifesté par et triomphera par notre marche, par notre vie. Recevons cela de tout notre cœur. Et je demande à tous que, quand nous lisons de telles paroles, que nous puissions, comme il est écrit, que ceux qui ont écouté la vraie parole, ça peut être possible d'écouter la vraie parole et elle peut nous servir à rien si elle ne trouve pas en nous la foi. Que nous puissions dire au Seigneur, que tu puisses me lier avec toi, me lier avec ta parole. Accorde-moi la foi qui est la victoire, qui a vaincu le monde, la foi qui est selon les Écritures, qui vainc toutes les choses du monde. Et que nous puissions regarder au Seigneur en lisant de tels versets, nous devons donner une réponse au Seigneur, car c'est lui qui nous parle. Alors, il nous parle, n'est-ce pas? Et il attend de nous une réponse. Car, lisons encore ici, au verset 2, Hébreux 4, verset 2, « Car le message du salut nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. » Mais la parole, c'était la parole, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Oh, loué soit le Seigneur. Que nous puissions croire, comme le dit les Écritures, c'est une grâce. Et que nous ne puissions pas regarder à nous-mêmes et aux circonstances difficiles, mais au Seigneur qui nous a fait des promesses et qui a dit, bien-aimé, et que nous puissions dire, bien-aimé Seigneur, produis en moi la foi. Accorde-moi cette foi-là qui est selon les Écritures. Et si nous regardons au verset 12 de Hébreux 4 et recevons cela de tout notre cœur et expérimentons cela personnellement, voilà ce qui se passe en ceux qui croient. Si la parole trouve en toi la foi, alors il est écrit ici, la parole de Dieu est vivante. Alors elle est vivante. Alors elle est vivante si elle trouve en toi la foi. Elle est efficace. Elle est plus tranchante d'une épée quelconque à deux tranchants. Alors elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments. Elle juge les pensées du cœur. Donc, encore ce soir, Dieu, par sa parole, nous parle. Et comme ici, nous pouvons le lire, particulièrement dans l'épître aux Hébreux pour montrer de quoi il s'agit. Il s'agit de la vraie foi. Il s'agit de croire Dieu, l'œuvre accomplie de la rédemption, de croire sa parole et d'être dans l'attente de recevoir personnellement tout ce que Dieu a promis. Car Dieu, lui, il a pris la responsabilité pour l'accomplissement de toutes ses promesses. Par exemple, dans le chapitre 3 d'Hébreux, Hébreux chapitre 3, au verset 12, il est écrit: prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. En allemand, c'est une seule chose. Un cœur mauvais d'incrédulité. D'incrédulité. Un cœur incrédule est mauvais, au point de se détourner du Dieu vivant. Un cœur mauvais d'incrédulité. Quelqu'un qui ne croit pas ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a fait. Et ici, nous l'avons toujours dit, Dieu ne peut rien avoir à faire avec l'incrédulité et la désobéissance. Absolument rien, rien. Il ne peut pas agir là où il y a l'incrédulité et la désobéissance. Notre Seigneur était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et tous ceux qui sont crucifiés vraiment avec lui ont été déterminés à croire et à suivre le Seigneur dans l'obéissance de la foi, dans la foi et l'obéissance. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais d'incrédulité. Dans Éphésiens ensuite, Paul, ici, Paul n'a pas seulement tenu une prédication comme ça en général, mais c'est pour la préparation de ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été élus à voir la gloire de Dieu. Éphésiens, le premier chapitre, à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il envoie cette salutation-là à nous tous qui sommes ici rassemblés. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette salutation est adressée à tous, dans tous les pays, dans tous les endroits. Et toujours de nouveau, il se réfère à son apostolat et à son œuvre dans la volonté de Dieu à prêcher la parole de Dieu. Ici, au verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il nous a montré ce qui nous a été accordé par la grâce de Dieu, à partir du verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pas qu'il va nous bénir au futur, mais qu'il nous a bénis. Et comme auparavant, dans Colossiens, nous l'avons lu, le Seigneur n'a pas seulement accompli la rédemption, il n'a pas seulement payé le prix et versé son sang. Il a réglé le compte des autorités des ténèbres. Il est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Il a prêché. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il a prêché la victoire. Et il est ressuscité le troisième jour victorieux. Et il a vaincu toutes choses. Et sa victoire est notre victoire. Son triomphe est notre triomphe. Donc, disons amen à cela. Que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui étaient au ciel, dans les lieux célestes en Christ. Ensuite, suit l'élection. Directement au verset 4, suit l'élection. Car en lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints. Avant même la fondation du monde, élus à être saints et irréprochables devant lui. Ici, nous pourrons aller dans Romains 8 et encore dans d'autres versets bibliques. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi élus, prédestinés à être transformés à l'image de son Fils. Il leur a déjà donné la gloire. C'est vraiment, Romains 8, verset 29-30, c'est vraiment une œuvre accomplie de la rédemption que Dieu en Jésus-Christ, par sa grâce, nous a accordée. Maintenant, je voudrais de tous entendre et apprendre, est-ce que de tout votre cœur, vous pouvez croire que réellement, que nous sommes réellement, avant même la fondation du monde, nous avons été élus par Dieu, amen. Sinon, nous ne pourrions pas croire. Nous ne pourrons pas croire. Nous pouvons croire parce que nous avons été déterminés à Dieu pour cela. C'est pour cette raison que de telles paroles auxquelles les autres sortent sont pour nous précieuses. Tous ceux qui ne sont pas élus sortent à de tels versets que Dieu ait fait un choix. Mais Dieu n'a pas dit, toi je t'accepte pas, toi je te rejette, toi je t'accepte, toi je te rejette. Non, non, c'est ce choix consistait à ce que Dieu déjà à l'avance pouvait savoir qui l'accepterait et qui le rejetterait. Dans sa préscience, il a pu savoir et il a élu le nom de ceux qui l'accepteraient. Alors, encore une fois le verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. Avant même que rien ait été appelé à l'existence, avant la fondation du monde, nous avons été élus. Élus à être saints, à être irrépréhensibles devant lui. Nous avons besoin à cela de lire encore dans Éphésiens chapitre 5. Ce qui se passera quand le Seigneur achèvera l'Église et qu'elle sera sans tache, sans ride irréprochable. Pour cela, nous avons souvent besoin de lire Éphésiens 5. Elle se tiendra devant lui sans tache, sans rite, irréprochable. Et toi et moi, nous avons la grâce d'y appartenir. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui, pas pour quelqu'un d'autre, c'est son église, c'est son troupeau racheté par le sang, par son sang, le corps du Seigneur. Il est le chef, il est la tête et nous sommes les membres de son corps. Afin de faire paraître devant lui, pour lui, cette église, devant lui, glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Mais sainte, irrépréhensible. Et pour cela, Dieu a pris soin. L'une des choses a lieu par le sang de l'agneau et l'autre par le bain de lavage dans la parole. Dans la parole, pour être sanctifiés, purifiés par le sang, nous sommes purifiés et sanctifiés, tel que ici le premier week-end dernier, le mois dernier, nous l'avons dit en insistant de Lévitique chapitre 14 et chapitre 14. Oui, Lévitique chapitre 14. Dieu avait ordonné qu'ils apportent des sacrifices et ça devait être apporté à l'entrée de la porte d'assignation. Pourquoi? Parce qu'il y avait là le voile, et derrière le voile, il y avait l'arche de l'alliance. Et Dieu avait fait une alliance avec le peuple, et cette alliance était dans la tente d'assignation, et c'est là que les sacrifices devaient être apportés. Et l'agneau de Dieu, quand il fut immolé sur la croix à Golgotha, le voile s'est déchiré, le rideau s'est déchiré, et l'accès au lieu très saint a été inauguré, est ouvert. Et nous avons la grâce d'entrer et d'expérimenter que Dieu nous parle personnellement par sa parole. Comme c'est écrit ici, afin de faire paraître devant lui cette église. C'est son église. C'est son troupeau racheté par le sang. Afin de faire paraître devant lui cette église. Devant lui-même. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible, glorieuse. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux en toi? Qu'est-ce que tu peux montrer? Qu'est-ce que tu peux prouver? Qu'est-ce que Ésaïe disait dans le chapitre 1? Même si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et qu'est-ce que l'Apocalypse dit? Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Ça, c'est la justice des saints, la justice divine qui nous a été accordée par la foi au sang versé sur la croix à Golgotha, accordée par Dieu. Ce n'est pas ta justice et ma justice, mais la justice que Dieu, par sa grâce, nous a accordée. S'il vous plaît, acceptez cela. À partir de maintenant, nous allons simplement prendre chaque parole pour nous, et par la grâce de Dieu, nous retrouver dans chaque parole. Si par exemple ici, il est parlé de l'Église, alors dis dans ton cœur, Seigneur, j'appartiens à cette Église, j'appartiens à ton Église, au troupeau racheté par le sang, j'appartiens à ton Église, que tu présentera devant toi, glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Seigneur, ici tu parles de moi. Je suis concerné, je suis inclus dans ce que je viens d'entendre. Je suis une partie de ce troupeau, de cette église que tu présenteras devant toi, glorieuse. Texte écrit ici, sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. Encore une fois, l'importance est mise sur Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Devant lui. Par la grâce de Dieu. Tout est par la grâce de Dieu. La lettre est anéantie. L'accusation n'est plus valable. Celui qui accuse les frères est vaincu. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas seulement rédempteur, n'est pas seulement l'agneau de Dieu en tant que médiateur de la nouvelle alliance. Avec son propre sang saint, il est allé dans le sanctuaire céleste. Et comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament prenait le sang du sacrifice et l'apportait sur l'autel, c'est ainsi que notre Seigneur est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et le sang parle encore aujourd'hui pour nous. C'est dommage. Pour tous ces hommes-là, à l'intérieur du message, qui, en parenthèse, prétendent que le Seigneur, lors de l'ouverture des sceaux, aurait quitté le trône de la grâce. Non. Et encore une fois, non. Le trône de la grâce reste là jusqu'à que le temps de la grâce est encore là. Et c'est encore le temps de la grâce. Donc, le trône de la grâce est encore là. Et alors, le sang de l'agneau est encore là sur le trône et parle encore pour nous. Et nous avons encore la grâce de venir au Seigneur et de remercier Dieu pour cela. Résumons de quoi il s'agit. Le Seigneur rassemble son peuple, rassemble son Église de tous les peuples, les langues et les nations. Sous Christ, le chef, la tête. L'Antichrist, lui, il rassemble toutes les religions, toutes les confessions, et il sera leur chef, il sera la tête. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul chef, et c'est seulement la parole de Dieu qui est valable. Et cette parole demeure éternellement. Nous croyons par conviction et de tout notre cœur que ce n'est pas un hasard que nous soyons ce soir ici ou bien que nous écoutions la parole de cette manière. Ce n'est pas un hasard. Cela a été aussi déterminé avant même la fondation du monde, qu'à la fin du temps de la grâce, tout le conseil du salut de notre Dieu serait prêché. Comme auparavant nous l'avons dit, depuis 1933, ce sont beaucoup d'années qui sont passées depuis le retour à la maison de Frère Branham, de la même manière aussi, et depuis que nous avons la grâce de porter ce message dans le monde entier. Beaucoup d'années sont passées, mais comme auparavant déjà, cela a été mentionné. Le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de ses promesses. Il est en train d'appeler les derniers à sortir. Et peut-être que ce soir, il y en a quelques-uns ici, éventuellement pour la première fois, sous l'écoute de la parole de Dieu. Peut-être qu'ils écoutent aujourd'hui pour la première fois le message divin de la croix et du crucifié, de la réconciliation. Si cela serait le cas, acceptez cela pour vous dans la foi. Acceptez simplement pour vous que le Seigneur personnellement parle avec vous et qu'aujourd'hui, vous êtes ici pour, en cet endroit et partout où cela est écouté sur la terre, vous écoutez la parole de Dieu. Et ensuite, nous pouvons même aussi commencer avec les jeunes, avec les frères et sœurs jeunes. Et nous savons que le temps est difficile. Pour la jeunesse, c'est difficile. Ça n'a jamais été difficile pour les jeunes qu'aujourd'hui dans le monde. Mais nous sommes ici pour prêcher la parole et pour leur adresser aussi la parole de Dieu et pour prier aussi avec tous ceux qui ont besoin d'une délivrance et qui d'eux-mêmes ne peuvent pas, comme ça, user de violence, comme c'est écrit. Et nous sommes là pour prier avec vous au nom du Seigneur, car il est écrit, celui que le Fils libère, il est réellement libre. Donc, pas seulement ici pour prêcher la parole. Pensons aussi à notre Seigneur. Il n'a pas seulement prêché, il n'a pas seulement enseigné, il a sauvé, il a guéri, il a pardonné, il a délivré. Et il est le même encore aujourd'hui. Il est présent. Il est parmi nous. Et il confirmera sa parole. Il ne la laissera pas sans produire d'effet. Il est là pour accorder la foi, pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour faire grâce. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait pour nous. S'il vous plaît, croyez-le. Le retour du Seigneur est vraiment très rapproché. Les signes des temps parlent un langage clair. Et disons les choses encore une fois. Le dernier appel retentit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et comme nous l'avons lu aussi dans Hébreu, autrefois, le message ne leur a servi à rien parce que la parole qu'ils entendirent, ils ne l'ont pas cru. Liez la parole que vous recevez à la foi. Vous devez la croire pour qu'elle puisse agir. Et croyez aussi à votre élection, avant même la fondation du monde, que ce soit le pardon, la réconciliation, que ce soit la prédestination, que ce soit la révélation, que ce soit quoi que ce soit comme sujet. Acceptez, croyez chaque parole de Dieu de tout votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs, mais recevez, acceptez de toute votre âme la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'elle vous sera révélée et que vous l'expérimenterez personnellement. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de grandes choses et fera de grandes choses dans tous ceux qui de tout leur cœur croient et continueront à croire. Est-ce que vous pouvez tous croire? Oui. Amen. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Et chantons « Crois seulement, crois seulement. » Nous allons ensemble croire, ensemble prier et recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Commençons avec ceux qui n'ont pas encore expérimenté une conversion et qui n'ont pas encore accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Les Saintes Écritures disent dans Jean, le premier chapitre, tous ceux qui l'ont reçu, il leur donna le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu, tous ceux qui croient en son nom. Dans Jean 14, nous l'avons lu. Dans Jean 17, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donné du monde. Ils sont à toi et tu me les as donnés. Aujourd'hui, nous revendiquons chaque âme qui n'est pas encore sauvée, qu'aujourd'hui elle soit sauvée et reçoive la vie éternelle par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, croyez ce que nous avons aussi lu dans Colossiens. Le Seigneur a anéanti la lettre de condamnation, a pardonné tous les péchés. Nous sommes lavés dans le sang de l'agneau et il a vaincu tous les principautés des ténèbres. Il les a dépouillés. Croyez que vous êtes libres, que vous avez été délivrés. Parce que vous avez été rachetés par le sang de l'agneau. Vous n'avez pas besoin de rester esclave du péché. Vous n'avez pas besoin de rester lié par quoi que ce soit. Tout ce qui est lié, tout ce qui est un lien, c'est aussi un esclavage. C'est quelque chose que tu es obligé de faire et que tu ne veux pas. Donc l'esclavage, c'est-à-dire on t'oblige à le faire. Et tu peux être libre par la puissance de Dieu. Acceptez cela dans la foi. Dans la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption. C'est la croix à Golgotha. Aussi à tous les autres qui sont peut-être malades, qui ont besoin de guérison et qui sont liés, qui ont besoin de délivrance. La pleine confirmation de la parole est parmi nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui, au commencement, a confirmé sa parole, il l'a confirmé aussi dans notre temps. Et il s'est manifesté en tant que le même. Écoutez encore cela. 246 fois, frère Branham a mentionné la lumière surnaturelle qui est descendue dans les réunions que nous appelons colonne de feu, qui est descendue sur sa tête. 246 fois, frère Branham a mentionner cela dans ses plus de 1000 prédications, que le Seigneur est descendu lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est le même. Frère Branham est mort, est allé à la maison, mais le Seigneur vit. Il a confirmé sa parole. Nous lui appartenons par sa grâce. Alors que le Seigneur disait que le message sera précurseur de son retour, cela s'est accompli aussi. Le message est précurseur, il va dans le monde entier. Il est allé dans le monde entier et les derniers sont appelés à sortir. Avant que les trompettes retentissent, que la voix de l'archange retentisse, et que le Seigneur, avec cri de triomphe, descende, que les morts en Christ, premièrement, ressuscitent, et ensuite, nous, qui vivons en Christ, nous serons transformés, et ensemble, nous serons enlevés dans la gloire. Auprès de Dieu, tout est déjà une réalité. Tout est déjà tel que Dieu l'a déterminé, aussi pour nous, pour toi et pour moi. Que nous puissions le croire de tout notre cœur. Combien croient que le retour de Jésus-Christ est proche? Combien croient que le message divin, comme il était au commencement, maintenant est prêché à la fin, et que tous les peuples, encore une fois, reçoivent ce message? Donc, il est apporté à tous les peuples, bien sûr. Et nous vivons dans le temps du rétablissement de toutes choses, rétablissement de tout ce que Dieu a promis, que tout sera rétabli selon Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 17. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout. Des choses que le Seigneur, par ses serviteurs, les prophètes, a annoncé à l'avance. Et bien, mes frères et sœurs, nous pouvons l'expérimenter. Nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Et cela confirme notre élection avant même la fondation du monde. Parce que nous avons la grâce de croire comme le dit les Écritures, oui, de croire Dieu. Et maintenant, nous allons chanter ce chœur et que la foi puisse recevoir l'étincelle qui conduit à la victoire et qui a vaincu toutes choses, et aussi ce qui te retient encore qui veut te retenir encore esclave. La foi va vaincre. Combien veut lever les mains pour que nous puissions penser à eux dans la prière? Merci, 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 merci. Partout, partout, Dieu a vu les mains, a vu les cœurs, a vu ta vie, a vu ton désir, et il a vu aussi qu'aujourd'hui, tu viens à lui. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton heure que le Seigneur t'a accordé. Accepte le salut, accepte la délivrance, accepte ta guérison, ta délivrance, ton salut. Accorde, accepte tout ce que Dieu t'a donné. Nous voulons ensemble prier, ensemble croire et ensemble remercier. Ensemble. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour la pleine rédemption par le sang de l'agneau, pour le sang de la nouvelle alliance. Le voile est déchiré, le chemin est inauguré au lieu très saint et le sang parle encore aujourd'hui pour nous. Bien-aimé Seigneur, sauve maintenant ce qui est perdu, délivre ce qui est lié et bénis-nous tous et confirme ta parole et ta présence. Nous croyons de tout notre cœur. Tu as sauvé, tu as guéri, tu as confirmé ta parole. Alléluia. Tu as parlé avec nous. Tu nous as révélé ta parole. Tu nous as révélé ta volonté. Nous te remercions de tout notre cœur et de toute notre âme. Et nous te demandons, bénis sur toute la terre, partout où ton peuple est rassemblé, que tu puisses confirmer ta parole, sauver, délivrer, guérir et bénir et accorder à ton peuple la révélation. Bien-aimé Seigneur, aujourd'hui, nous voulons ensemble te remercier pour l'élection, pour les promesses, pour ce que tu fais dans le présent. Nous voulons tous ensemble élever nos voix et ensemble remercier Dieu. Frère Schmitt vient pour prier et remercier avec nous. Alléluia. Alléluia. Grand Dieu. Alléluia. Nous te remercions, ô Dieu du ciel, pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Pour ce que tu as accompli pour nous. Tu as confirmé la rédemption. Ta parole nous a parlé. Parlez à chaque cœur, ô Seigneur. Nous te remercions de ce que le temps de la grâce est encore là, ô Dieu. Nous te remercions de ce qu'il y a encore des hommes qui prennent les décisions pour toi, qui te remettent leur vie. Ainsi, nous te demandons ensemble, Seigneur, inclus-nous tous dans cette œuvre, sous ton sang, sous ta grâce, sous ta rédemption, l'œuvre de ta rédemption, sous ta parole. Nous te remercions pour la plénitude de la foi que tu nous accordes. Louez le Seigneur, élevez vos voix. Alléluia. Alléluia. Nous te louons, nous t'exaltons. Louez le Seigneur. Exaltez son saint nom. Alléluia. Alléluia. Honneur sois-tu, ce toi apporté toi, l'agneau. Alléluia. Nous te remercions. Nous te remercions pour ta sainte parole. Te remercions de ce que tu nous l'as conservé. Tu nous l'as révélé. Seigneur, de ce que nous sommes dans l'attente et que ton retour est proche, ô Dieu. Nous louons ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Honneur, gloire et adoration te soient apportés. Et que tous disent Amen. Et que tous disent Amen à chaque parole de Dieu que nous avons entendue et cru de tout notre cœur. Chantons encore ceci est le jour. Et que tout le peuple dise Amen. Tous nos frères et nos sœurs qui connaissent d'autres langues et qui parlent d'autres langues, nous vous disons merci de ce que vous avez de la patience pendant ce temps avec nous où nous chantons en allemand, nous prêchons en allemand, mais ce sont les mêmes cantiques qui existent dans plusieurs langues. Et nous pouvons de tout notre cœur chanter Dieu et de tout notre cœur le remercier pour ce qu'il fait et a fait par sa grâce. Bien-aimés frères et sœurs, ceci est le jour. Ceci est le temps, ceci est l'heure où le Seigneur fait de grandes choses en nous. Chantons encore ce cœur. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous. Chante, prions. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, laisse luire ta face sur nous tous, sur le troupeau racheté par le sang, sur toute la terre. Tu as parlé avec nous et dans la foi, nous avons tous accepté et cru. Nous te remercions de ce que tu as ouvert notre intelligence pour les Écritures et que tu ne parles plus en parabole, mais tu parles directement avec nous de face à face par ta parole. Et tu nous révèles par ta grâce ta parole. Ici, aucun a besoin d'enseigner l'autre. Ici, nous sommes tous enseignés par Dieu, par la parole de Dieu. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, la louange, l'adoration. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te donnons à toi seul l'honneur dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen.
Encore une fois, Alléluia, sois glorifié.
Amen.
Amen.